Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Les grands débats du matin, Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300. Trop de sanitaires, tulle sanitaire, c'est la vraie question.
Oui, c'est ça. Bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour du masque, autour de la vaccination, en fait, de nouveau. Et puis surtout, sur l'état un peu général des déclarations, alors est-ce que c'est trop alarmiste ou pas, finalement réaliste,
Elisabeth, parce que vous avez réagi. Je voudrais féliciter ma camarade.
Françoise de Gaulle,
oui. Je voudrais la féliciter, j'aurais signé son édito des deux mains et des deux pieds.
Ouais. Non, alors, pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous, je dis que Françoise de Gaulle, elle disait attention, arrêtons, n'allons pas dans une société enfermiste, en fait, à tout prix. Quoi,
non, mais on est dans. Écoutez, c'est plus de la. D'abord, je n'aime déjà pas le principe de précaution parce que il bat en brèche, à mon avis, une chose qui est fondamentale dans la vie des sociétés humaines, c'est la capacité de prendre des risques. Mais là, c'est plus de la précaution. C'est, je ne sais plus qui a parlé de précautionnisme. C'est-à-dire que. On a effectivement beaucoup de cas, mais je veux dire, on n'a pas en correspondance l'afflux dans les hôpitaux, les morts, les réas saturés, etc. Donc, si vous voulez, on est plutôt dans un cas où la maladie est plus bénigne. D'accord. Donc
même si il y a des cas un petit peu plus graves là, visiblement,
oui,
qui arrivent, mais bon, forcément.
Si vous voulez, d'abord, et puis ça fait déjà 2 ans, il va bien falloir qu'à un moment on apprenne vraiment à vivre avec. Donc, si vous voulez, je n'en peux plus. C'est-à-dire que je ne peux plus. En plus, c'est contre-productif. Je vais vous dire pourquoi. Juste parce que quand on nous impose des choses qui sont stupides, si vous voulez, on a envie de tout balancer. Par exemple, le masque dans les endroits non clos. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous les. Psychologiquement, ce que je disais ce matin, mais je le redis, on ne peut pas tous les 6 mois nous dire que le virus rebat toutes les cartes à chaque fois. Ce n'est pas possible, c'est plus audible. Et les chiffres ne correspondent pas. Donc je ne dis pas du tout qu'il va y avoir une révolte. Moi, je suis révoltée par le fait qu'il n'y ait pas de révolte. Et je suis révoltée par le fait qu'il y ait des gens qui se réjouissent à une très large majorité, qu'on puisse enfermer les non-vaccinés, à une très large majorité. En Grèce, 100 euros d'amende pour les gens qui ne sont pas vaccinés au-dessus de 60 ans. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce Covid, pour moi, révèle des tendances de vie que je trouve... Vous savez, avant, je m'opposais à Elisabeth il y a un an parce que j'étais vachement enfermiste par rapport à elle. Mais maintenant, je trouve que là, ça n'est plus possible. Je vois les dégâts psychologiques sur les gens. Et surtout, on fait comme s'il ne s'était rien passé entre l'an dernier et cette année. Et ben, il s'est passé le vaccin. Donc, écoutez, soit ce vaccin n'est pas génial, il faut le dire. Voilà. Et ben, écoutez, voilà. Ce vaccin, il va nous protéger 4 mois, et puis il faut rebooster, c'est comme ça. On ne peut pas nous expliquer que ce vaccin est l'alpha et l'oméga, pour nous expliquer ensuite qu'il va falloir 4 doses, 5 doses. Soyez clairs, soyez transparents. Écoutez, si ce vaccin marche pas bien, et ben il marche pas bien, mais on va quand même le prendre parce qu'on n'a pas autre chose et que ça nous évite les formes graves.
Moi, je dois dire que 4 ou 5 doses, c'est pas ça qui me gênerait le plus, je l'avoue.
C'est pas ça.
Ce qui est énervant, si vous voulez, c'est que, effectivement, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, le vaccin, c'est super pour éviter...
Tout est fini avec
pour éviter
ça.
les mesures restrictive. Et maintenant, c'est ceinture et bretelle. C'est double ceinture et quadruple bretelle. Ouais. Donc, effectivement, on attendrait de quelqu'un qui nous parle vrai comme à Sud Radio, qu'il vienne à la télé, qu'il nous dise, écoutez, le vaccin, c'est ce qu'on a de mieux, mais c'est pas génial. Ah. Donc, voilà, on va...
S'il dit ça, ça va remettre complètement en cause
mais
la stratégie vaccinale.
Patrick,
vous voyez bien
que... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, 0826-300.
Les gens le voient que c'est pas génial, mais c'est pas grave. Ça, moi, je ne suis pas.
On peut pas le leur reprocher.
On peut pas reprocher. C'est pas le souci. Mais.
Et puis c'est pas parce que c'est pas 100% que c'est 0%. Si vous voulez, c'est ce qu'on a de mieux. Ça veut pas dire que c'est la panacée contre la maladie. En revanche, c'est quand même assez efficace contre les formes graves. Il faut quand même être.
Moi je suis d'accord. On n'est pas des. Le problème, c'est qu'on peut plus émettre en plus une critique. Maintenant, on est dans un truc tellement radicalisé, c'est complètement dingue. Maintenant, vous avez vraiment des talibans de la vaccination. Je dis ça parce que c'est fou. On peut même pas poser une question n'est pas être complotiste. Émettre des doutes n'est pas être complotiste. Dire qu'on n'est pas d'accord avec les amendes en Grèce, en Autriche, la vaccination obligatoire, c'est pas complotiste. On a le droit de poser des questions sur les effets secondaires. On a le droit. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait réel, c'est tout à fait humain.
Elisabeth,
juste un mot. En plus, si vous voulez, ça commence à devenir un peu pénible parce que on nous dit, donc je crois à partir du 15 janvier qu'il faut la 3e dose pour que votre passe reste valide. Or, comme beaucoup de gens, j'ai essayé de prendre un rendez-vous.
Parlez bien dans le micro.
Pardon, excusez. Et pour l'instant, j'ai eu un rendez-vous le 14 février.
Voilà. Ah bah c'est bien, parce qu'il y en a certains qui ont eu le 15 mars.
Oui, donc si vous voulez, il ne faut pas se moquer de nous. Donc ils vont, en plus de voir à un moment, changer forcément cette date. Ils ne vont pas tenir. On peut pas on peut pas imposer une chose aux gens sans leur donner les moyens de le faire. Parce que on va devenir tous dingues.
Après, à la décharge de Doctolib, il y a beaucoup de pharmacies qui ne sont pas sur Doctolib et qui pratiquent le vaccin. Hein, je le dis parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui nous disent, nous on le fait et on n'est pas sur.
Mais moi, c'était pas Doctolib que je critiquais, c'était plutôt le gouvernement, si vous voulez.
Qui... Bah non, parce que Doctolib, c'est une entreprise privée qui s'est greffée. Oui,
Doctolib, c'est un tuyau, Doctolib.
Heureusement que Doctolib est arrivé. Le gouvernement aurait dû créer, en fait, une telle plateforme, quoi, face à ça, pour, évidemment, pouvoir orienter les gens, puisqu'il n'y a pas d'orientation. Et donc, s'il n'y a pas de Doctolib qui est entreprise privée,
Si on avait compté sur un logiciel mis au poids par le gouvernement, je pense qu'on y serait encore.
Un mot sur le port du masque. Est-ce que vous le respectez ou pas, ce port du masque ?
Moi, je le respecte absolument. Alors, c'est la seule chose.
En intérieur et en extérieur aussi, ou pas ?
En intérieur, en extérieur. Il m'arrive maintenant de remettre le masque et je le respecte. Et j'ai été sidéré. J'ai été au cinéma l'autre jour et j'ai vu la moitié de la salle sans masque.
Je dois dire que
la salle était blindée. Ouais. Les passes étaient à peine contrôlées à l'entrée du cinéma. Illusion perdue, magnifique. Ouais, très beau, très beau. Mais voilà. Donc, je trouve que plutôt que de culpabiliser les non-vaccinés, on fait ce qu'on veut, il faudrait aller à fond à nouveau sur une grande campagne sur les gestes barrières.
Non, mais moi, alors là, je suis totalement. Voilà notre position.
Grosso modo, les auditeurs disent que c'est excessif. Alors certains nous reprochent de dire vous auriez dû mettre en fait autre chose, par exemple, c'est totalement inutile. Oui, c'est vrai, on aurait pu le dire, mais quand on dit c'est excessif, c'est un peu en fait.
Non, mais moi, par exemple, je refuse
cette
affaire de masque. Moi, je refuse cette affaire de masque partout.
Dingue, hein. Moi, ça me pas, moi.
Non, mais je refuse. Détestable. Ouais. Pourquoi ? Parce que le prix, si vous voulez, puisqu'on parle tout le temps de coût-bénéfice, le prix qui est de ne pas voir le visage des gens, je ne vous parle pas du confort de respiration, de lecture, etc., moi qui ai des lunettes, de ne pas voir le visage des gens, de s'habituer à ce que les gens soient masqués, me paraît être quelque chose dans nos sociétés qui est terrible. Mais j'en ai ras-le-bol de voir ces masques.
Il va y avoir droit jusqu'à la fin.
Je ne suis pas sûr que ce soit efficace, même au cinéma.
Stéphane Gaillet, qui est infectiologue et qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-gouvernement ou quoi que ce soit, il est toujours au contraire très critique. Il est infectiologue et spécialiste justement de la gestion des soins comme ça et notamment du port du masque. Il nous disait tout à l'heure, globalement à l'extérieur, ça ne sert à rien en fait quand on marche, etc. En revanche, quand on est rassemblés les uns à côté des autres. Évidemment, par l'air, ça peut être un peu transporté. Il dit là, dans ces conditions, ça diminue, en tout cas, et ça protège, en fait, un peu. Alors, c'est les masques, pas les masques en tissu, hein, ça protège beaucoup moins. Hein. Ce sont les masques papier. Enfin, c'est
et puis, ce sont les jets de... Enfin, les projections de postillons, donc dans la rue, vous parlez rarement.
On parle rarement tout seul.
Voilà, c'est ça.
Oui, non, sauf qu'il y a des spectacles, il y a des enceintes sportives, il y a aussi des rassemblements, des files d'attente, etc.
Une petite, par exemple, si vous voulez, il est clair que quand vous chantez avec des gens, il y a plus de risques que si vous êtes assis au cinéma, où normalement, vous ne vous tournez pas vers vos voisins pour leur cracher dessus, quoi. Il ne faut quand même pas
exagérer. À moins que vous soyez avec des lamas, mais non.
Allez, au passage, Françoise, il y a une auditrice qui vous dit, Monique, elle dit bonjour Françoise et bravo en plus, je trouve que le rouge vous va trop bien parce qu'elle a une écharpe en rouge.
La gauche. Hein,
allez,
c'est dans mon écharpe, la gauche. C'est ce qu'il en reste.
Ne vous emballez pas.
Dans un instant, allez, restez avec nous. Dans un instant, on va tout vous dire sur la manière dont s'est organisée la campagne d'Éric Zemmour jusqu'à présent. La suite, on ne la connaît pas encore précisément, mais on va tout vous dire. Restez bien avec nous, avec Étienne Girard qui a écrit Le Radicalisé, enquête particulièrement intéressante.
A tout de suite, 8h58.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06. Dans un instant, l'autre portrait de Éric Zemmour. Étienne Girard sera avec nous, journaliste, rédacteur en chef Société à l'Express, auteur de ce livre, Le Radicalisé aux éditions du Seuil. Et puis on va revenir.
Donc, évidemment, on attend vos questions. Vous pouvez appeler directement
et
discuter en fait avec Étienne Girard et puis Elisabeth Lévy et Françoise de Goix qui sont restées là sur Éric Zemmour. Comment finalement il s'est un peu fabriqué cette campagne ? À partir de quel moment il a pris en fait cette décision, quel est son entourage, est-ce que c'est solide, c'est tout ce qu'il y a dans cette enquête qui est passionnante, hein, sur Éric Zemmour. Donc on attend vos appels, mais avant ça, évidemment, Cécile, on revient sur un sujet qu'on a évoqué dans l'actualité tout à l'heure,
hein. Oui, en 2022, le fabricant de pneumatiques Michelin prévoit de supprimer 614 postes en France. On en parle avec Laure Trincard, qui est déléguée syndicale de la Confédération française de gestion. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Est-ce que ça a été perçu comme un gros coup de bambou, si je puis dire, l'annonce des 600 suppressions de postes chez Michelin, en fait, hier, sachant que on envisageait même d'aller vers plus de 2000, hein, à l'horizon 2023.
Alors, l'annonce qui a été faite, elle était pour 3 ans, début 2021. Mmh. Et ce qu'a annoncé Michelin, c'est jusqu'à 2300 suppressions de postes.
Oui.
La particularité, c'est que c'est un plan de volontariat avec un accord sur 3 ans sur l'accompagnement et un calendrier de négociation. Mais il y a une négociation annuelle de rupture conventionnelle collective. Donc là, c'est une déclinaison d'un plan qui était déjà annoncé en janvier. Mais ce que constate la CFE-CGC, c'est que le tertiaire est particulièrement impacté, avec sur 2 ans, donc 2021-2022, puisque maintenant on a la visibilité, 800 suppressions de postes. Alors que sur l'industrie, on n'est pas du tout dans le cadre de l'annonce, puisqu'on n'en a que 300.
Oui, Laure Trincard, d'ailleurs, qu'on comprenne bien, évidemment, pour les auditeurs notamment qui ne connaissent pas le dossier Michelin, parce que Michelin annonce quand même des recrutements là, pour 2022, et puis d'un côté, il y a ces suppressions de postes. Ça veut dire qu'on est en plein réaménagement, restructuration en fait, du groupe, parce qu'on va fabriquer, on ne fonctionne plus de la même manière.
Alors, la plupart des recrutements, c'est sur les nouveaux métiers ou l'informatique. Mmh. Tandis que les suppressions de postes, alors il y a une bonne partie, ce sont des délocalisations, alors que ce qui était prévu, c'est plutôt de simplifier les processus, travailler d'une manière plus efficace et d'alléger la charge dans les services. Donc ça, effectivement, ça supprime des postes. Mais dans la réalité, il y a quand même pas mal de postes qui sont des délocalisations vers l'Est.
Oui, alors quand vous entendez en fait les discours là, dans la campagne électorale et même avant, pendant la crise sanitaire, on a parlé relocalisation, réindustrialisation. Quand vous entendez ces discours, quelle est votre réaction alors que vous êtes en fait en plein cœur de ce sujet avec Michelin ?
Alors nous, ce qu'on constate, c'est que quand même l'industrie est moins impactée que ce qui avait été annoncé en janvier.
Oui.
Puisque pour l'instant, sur 2 ans, on n'en est qu'à une annonce de 300 suppressions de postes et effectivement, en production, on recrute. Mmh. Donc, notre analyse à la CFE-CGC, c'est que cette annonce, elle a été faite en contexte Covid, à un moment où on ne savait pas à quel rythme se ferait la reprise économique. Donc, si la productivité est au rendez-vous dans les usines, il n'y aura pas les 1100 suppressions qui étaient éventuellement prévues début 2021. Néanmoins, on a quand même un gros enjeu d'attractivité. C'est très difficile de recruter en production et notre syndicat a déjà commencé à travailler sur des propositions. Et il y a notamment un problème sur le pouvoir d'achat,
des salariés. Ouais. Ça, c'est une question qui revient beaucoup dans la plupart des entreprises. Merci, hein, Laure Trincard, déléguée syndicale de la Confédération française, la CFE-CGC de Michelin à Clermont-Ferrand. On suivra évidemment ce dossier Bibendum qui est particulièrement important en Auvergne. On le disait tout à l'heure avec le journaliste en fait, de La Montagne. C'était 28 000 postes, 28 000 personnes qui travaillaient il y a 25 ans chez Michelin à Clermont. Et aujourd'hui, on est à un peu moins de 9 000. Merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite, un portrait très étayé d'Éric Zemmour. Étienne Girard est avec nous, journaliste, rédacteur en chef Société à l'Express et auteur de ce livre, Le Radicalisé aux éditions du Seuil. Bonjour, bienvenue.
Bonjour,
bonjour,
merci de m'accueillir.
Oui, et merci d'être avec nous. Alors, c'est une enquête, évidemment, qui est très, très fournie, parce que vous racontez tout. Les dîners avec son assistante, hein, aujourd'hui, on connaît. C'est elle. C'est elle, d'ailleurs, vous avez l'impression, Sarah Knafo, qui pousse et qui incite Éric Zemmour à être candidat, à basculer à un moment donné dans la candidature ou pas ?
Oui, sans aucun doute, parce que Sarah Knafo, elle fait tout ce qu'Éric Zemmour ne peut, ne veut ou ne sait pas faire. Éric Zemmour, il est là pour les idées. Donc, passer un déjeuner à parler d'idées avec un potentiel sympathisant, un intellectuel qui compte en France, ça, il sait faire. Mais ensuite, entretenir un réseau, organiser des rendez-vous, motiver les gens, avoir une réunion à une dizaine de personnes ou à fixer des tâches, des missions à chacun. Ça, il a jamais fait. Éric Zemmour n'a jamais été un chef de toute sa vie. Oui. Et il a eu besoin de Sarah Knafo pour organiser tout ce travail de logistique, ce travail de l'ombre. Sans elle, il n'y aurait pas eu de candidature. C'est ce que tout le monde dit dans son
entourage. Oui, parce que dans votre enquête, est très étayé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent, évidemment, sous le sceau du secret.
Mais certains sous le sceau du secret.
C'est vrai. Et on a l'impression il consultait, il dînait, il déjeunait en fait, avec des personnes pour sentir un peu les choses, mais il avait envie que ce soit quelqu'un d'autre qui y aille. Voilà.
C'est quelqu'un qui n'a pas le feu sacré présidentiel, Éric Zemmour. C'est très particulier. C'est pas Macron, c'est pas Sarkozy. Et d'ailleurs, il me dit ça quand je le rencontre en septembre pour mon livre. Il me dit, moi, je suis pas Nicolas Sarkozy. Je pense pas à la présidentielle depuis que je suis né. Éric Zemmour, son rêve, c'était plutôt d'être écrivain. C'était plutôt d'être admiré, disons, dans la bourgeoisie française.
Chez Gallimard, par exemple.
Voilà. C'était ça son vrai rêve. C'était d'être un auteur Gallimard. Et il a commencé d'ailleurs sa vie par réaliser un roman qu'il a jamais publié, qu'il a proposé à Gallimard, qui a failli être publié. C'est un de ses regrets. C'était ça son rêve. Son rêve, c'était peut-être d'accéder un jour à l'Académie française. Être candidat à la présidentielle, pas du tout.
Mais ce qui est étonnant, c'est que même la politique, puisque trois fois de suite, on lui a proposé l'Europe, et il a refusé.
Oui, alors ça, c'est aussi pour une autre raison, c'est que les élections européennes, ça ne l'intéresse pas du tout. Aller voter des quotas de pêche à Strasbourg, c'est pas du tout ce qu'il veut faire de sa vie. La présidentielle, c'est quand même autre chose. Ouais. C'est la perspective, c'est ce que me disent ses amis, c'est comme ça qu'il se convainc. La perspective, quand même, de rentrer dans les livres d'histoire, si ça se passe bien. Alors, c'est aussi l'humiliation, si ça se passe mal. C'est pour ça que son épouse, Mylène Chiche-Portiche, au début de l'année 2021, et même fin 2020, quand il commence à y penser, Éric Zemmour, freine des calfaires.
Elle dit, par exemple,
à Paul-Marie Couteau, arrête de lui dire de se présenter.
Perdre. Évidemment, ça apparaît dans votre livre, où elle lui dit, mais attendez, nous, on a quand même trois enfants, il faut penser, en fait, à vivre, etc. Et la présidentielle, on peut tout perdre. C'est ce que sous-entend, avec quelques-uns qui lui disent ça, qui lui conseillent, qui lui disent, attention, tu peux tout perdre en politique. Hein.
Absolument. Éric Zemmour, il a atteint des conditions matérielles dans sa vie qui sont exceptionnelles. Il avait à CNews le salaire d'un footballeur de très bon niveau. Il gagnait plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois pour donner son avis tous les soirs à la télévision. C'est une place, quand on est un essayiste, un polémiste, qui est
en or,
excellente. Il en était plutôt heureux, Éric Zemmour. Mais il y avait aussi cette lassitude lancinante de dire je sais que je peux que j'y arrive, je suis très bon, mais qu'est-ce qui peut me faire vibrer? Dit ça notamment à son éditrice Liz Boel, qu'est-ce qui peut me faire vibrer? Et il trouve dans cette aventure présidentielle, par le culot de Sarah Knafo,
une trajectoire.
Une trajectoire et la perspective d'une aventure.
Elisabeth Lévy.
Moi, je suis un peu choquée par la façon dont vous présentez ça uniquement comme quelque chose qui serait simplement personnel. Moi, je connais bien Éric Zemmour. Je le connais depuis très longtemps.
Et d'ailleurs, vous êtes cité dans le livre.
On ne peut pas lui enlever une chose, il est sincère. Il est habité par le sentiment que la France peut disparaître. Oui,
c'est bien dit dans le livre.
Oui, mais si. Alors là, je réponds.
C'est pas contradictoire.
Parlez bien, Elisabeth, dans le micro.
Je réponds à vos propos, pas à votre livre. Non, mais j'essaye de regarder mon interlocuteur en même temps. Donc ça, comme j'ai pas encore lu le livre, je ne le savais pas. Mais là, vous venez de parler simplement d'ambition personnelle. Et moi, je trouve quand même, quoi qu'on pense ensuite de ses idées, qu'on peut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il met sur la table son existence, effectivement, qu'il prend un risque considérable alors qu'il avait une existence assez tranquille, pas simplement parce que ça le fait vibrer, parce qu'il croit qu'il faut sauver la France. Après, on peut trouver ça ridicule, moi je trouve ça plutôt estimable, parce que il prend un véritable risque pour lui.
Oui, c'est vrai, et je dis qu'on vient pas du tout de la sincérité totale d'Éric Zemmour, c'est pas quelqu'un de cynique, il pense ce qu'il dit, il y a aucun sujet là-dessus. En revanche, je suis sûr qu'il n'aurait pas été candidat s'il n'y avait pas eu un espace pour lui. C'est aussi l'opportunité qui crée la vocation. Évidemment qu'ils pensent qu'il faut sauver
la France. Mais c'est une ambition ou une reconnaissance, un besoin de reconnaissance, parce que c'est pas du tout pareil.
C'est toujours les deux, ouais. Dans ces cas-là.
On le verra très vite, ça c'est par expérience, on verra quelle est sa capacité à résister. Vous savez, la politique, c'est être capable de ne pas s'euphoriser quand tout va très bien, et être capable de ne pas se dramatiser, de ne pas s'effondrer quand tout va très mal. Là, tout va plutôt mal, tout va peut-être aller un peu mieux avec le push narcissique classique, et quand je dis ça, c'est valable pour tous les candidats à la présidentielle. Vous savez, un meeting devant 12 000 personnes, ça s'appelle un shoot narcissique aussi. Donc, est-ce qu'il est capable d'assumer ou pas? Et c'est là qu'on voit quelle est la vocation. Est-ce que c'est vraiment, je l'ai chevillé au corps et j'y vais vraiment jusqu'au bout de ma vie, quitte à terminer à moins de 5%, oui. Et à être obligé de rembourser moi-même les dettes, hein, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Mmh. Donc, moi, je vous accorde à tous les deux que Éric Zemmour est très sincère. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens que je déteste dans les livres d'histoire qui étaient très sincères dans ce qu'ils croyaient, voilà. Mais quand même, on va voir, il y a là, il y a cette espèce de juge de paix, de juge de vérité qui est amour, désamour quand on rentre dans le fer abrasif d'une présidentielle, et c'est là qu'on va voir véritablement quelle est la dimension de sa vocation.
Allez, on va continuer dans un instant, parce que Étienne Girard, lui, il a fait une enquête, hein, donc pour savoir pourquoi, et qu'est-ce qui a déclenché ça, quels sont les soutiens, on va tout vous dire dans un instant. C'est le radicaliser aux éditions du Seuil. Restez avec vous, et vous pouvez poser vos questions.
Oui, 0826 300 300 vous attend, un standard, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et on revient sur ce portrait d'Éric Zemmour. Étienne Girard, ce matin, est avec nous, un journaliste, rédacteur en chef Société à l'Express, et ce livre, Le Radicalisé, aux éditions du Seuil.
Oui, n'hésitez pas, hein, vous avez quelques minutes encore pour poser vos questions. À quel moment, Étienne Girard, selon vous, il y a le déclic, j'y vais à la présidentielle, chez Éric Zemmour? Parce qu'on a dit tout à l'heure que finalement, bon, il avait envie de marquer l'histoire, mais à travers les livres, la littérature, et puis que, bon, ça lui plaisait, et qu'il voyait plutôt quelqu'un d'autre, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, il avait poussé Laurent Wauquiez.
Mais tout à fait. Encore en juin, on me dit que Éric Zemmour, en privé, demande à tout le monde, que fait Laurent Wauquiez pour la présidentielle? S'il y va, j'y vais pas.
Ouais.
En réalité, Éric Zemmour, il avance. Pendant tout le début de 2021, il fait organiser des réunions par Sarah Knafo sur sa candidature à la présidentielle, mais avec un doute, avec un tiraillement, et sa véritable décision, à mon sens, c'est très clair et c'est très simple, c'est en septembre-octobre, quand il voit les sondages, à la sortie de son livre, les premières dédicaces, 10%, 12%, 15%, 18%, mais là, ça change totalement de nature, cette candidature.
Oui, jusque-là, il n'était pas encore complètement convaincu de devoir être candidat, quoi.
Ah, mais pour avoir beaucoup travaillé sur ce cas, je suis convaincu que s'il était dans les sondages à 4%, il ne serait pas candidat à la présidentielle. À la différence d'autres politiques qui veulent à tout prix, ils en rêvent depuis toujours, ils veulent à tout prix en aide de cette élection, ils ont cette dinguerie d'animal politique, de penser envers et contre tout qu'ils seront président de la République. Éric Zemmour, c'est pas ça. C'est la bataille des idées avant tout, c'est vrai, cette idée que la France est en danger, ce qu'il pense sincèrement qu'elle peut disparaître à l'horizon 2050, que la France ne sera plus la France, mais se présenter, pour lui, ça n'avait de sens que s'il y avait une chance de pouvoir retirer un quelconque intérêt. Bah oui, si c'était un chemin de croix pour faire 3-4%, il n'y serait pas allé. Et c'est, d'ailleurs, il est candidat. Ouais. Est-ce qu'il sera candidat le 10 avril?
Je ne suis pas du certain.
Attendons.
Déjà, il faut les
faire. Il faut avoir les 500 signatures.
Ouais. Justement, allez, qui sont ses soutiens?
Oui, qui sont ses soutiens? On va voir. 0826 300 300.
Oui, c'est pas grave. Je suis là, Patrick, ne vous inquiétez pas. On est deux, on est un binôme. Allez, Olivier qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à votre invité.
Bonjour.
Votre question, votre réflexion.
Étienne Girard.
La question à M. Étienne Girard, pourquoi il a appelé M. Zemmour le radicalisé? Pourquoi il va appeler l'amoureux de la France, le patriote? Vous savez, quand M. Zemmour il dit que la France, comme vous dites, ça va changer dans 50 ans, c'est une réalité. Moi, je suis d'origine immigrée, mais j'ai la France qui coule dans mes veines. Je veux dire, je le soutiens à 1000 fois %. Et dès qu'on aime ce beau pays, bah, on est radicalisé, on est extrémiste, je trouve votre le titre, et ça va pas du tout, parce que quand il y a M. Zemmour, d'accord, mais il y a 18%, 20% qui est le peuple qui est derrière lui. Bah, Monsieur Zemmour, il n'est pas tout seul. Il y a un peuple qui est derrière lui, qui se tient et qui voit les choses. Voilà, il a mis sa vie sur la table, comme dit Madame Lévy. Ouais. Franchement, il perd tout. Mais par amour de la France, ben voilà, l'amour de la France, ça passe avant tout.
Ouais.
Voilà. Radicaliser, je trouve un peu, le titre ne va pas du tout.
Un peu radical, justement.
Merci Olivier, restez avec nous, hein, si vous voulez. Étienne Girard va vous répondre. Pourquoi ce titre? Oui, c'est vrai qu'il peut choquer. Hein.
Bien sûr, c'est un parti pris.
Ouais.
Parce qu'Éric Zemmour, ça correspond à sa trajectoire en réalité. Éric Zemmour, c'est pas quelqu'un qui défend ses idées radicales,
mollement,
virulentes. Ouais. Mais depuis toujours, non, c'est un parcours. Et c'est ça, mon livre. Ça raconte, depuis sa naissance, depuis ses études, comment il a évolué idéologiquement. Éric Zemmour, il commence par voter à gauche. Peu de gens le savent, il vote Mitterrand dans les années 80. Deux fois. Il a cette notion de lutte des classes, chevillée au corps. À l'époque, il est déjà raide, évidemment, sur les questions d'immigration. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Il a toujours défendu l'assimilation. Mais il vote à gauche et puis dans les années 90, il se rapproche plutôt d'une droite républicaine. Pasqua Séguin, il se retrouve totalement dans ses positions plutôt souverainistes et puis se réédit encore. Et c'est en ça qu'il se radicalise, que pour moi, le parcours d'Éric Zemmour est le parcours d'une radicalisation. Dans les années 2010, il va épouser les thèses d'une droite conservatrice et catholique.
Ouais.
À partir de son ouvrage de 2014, Le suicide français, il défend les racines catholiques de la France millénaire, éternelle, de Clovis au comité de salut public, donc toute cette France qui s'est construite avant la Révolution française. Et ça, c'est nouveau jusqu'à aujourd'hui, et c'est, disons, la station ultime, à mon sens, de sa radicalisation, expliquer que l'islam est incompatible avec les valeurs de la France.
Bon. Mais est-ce qu'il... On comprend qu'il y a évidemment une forme de jeu de mots, en fait, aussi avec la radicalisation.
De
clin d'œil, quoi. Vous avez voulu frapper.
Ouais,
est-ce que, Olivier, vous êtes... ça vous convient, cette réponse?
Non, pas du tout, monsieur. Non, pas du tout. Non. Moi, c'est l'amour de... c'est un monsieur qui... L'amour de la France, un patriote. Voilà, la radicalisation, non.
Mais en tout cas, Olivier, je vous conseille de lire ce livre, parce que c'est intéressant. C'est toute l'enquête. Et il ne porte pas de jugement, donc Étienne Girard d'ailleurs. C'est une enquête assez brute sur la manière dont ça s'est fait. Françoise de Goy, merci Olivier de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous pouvez continuer de le faire, hein, évidemment.
C'est intéressant parce que moi j'ai connu Éric Zemmour quand j'ai commencé comme journaliste politique. Il n'était pas du tout dans... Il y a 25 ans, il n'était pas du tout... Il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui est dans la droite classique, etc. Il est même très sympathique, je me souviens, avec les jeunes journalistes qui débutaient. Il est très partageur, en fait. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai une question à vous poser parce que ça m'a passionné. C'est l'envers du décor, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Aujourd'hui, on sent quand même que ça rame vraiment du côté d'Éric Zemmour pour arriver à séduire ces gens qui possèdent l'argent, qui possèdent la fortune et qui sont essentiels à toute campagne et à toute conquête du pouvoir, parce qu'une campagne, ça coûte cher. Et j'aimerais bien que vous m'en parliez parce que c'est passionnant.
Alors, qui sont les soutiens financiers?
Les soutiens financiers, c'est compliqué. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'Éric Zemmour, dans ses milieux d'affaires de grands capitalistes français, il intéresse en réalité... À l'inverse de Marine Le Pen, les grands capitalistes français n'ont jamais voulu rencontrer Marine Le Pen. À l'inverse, Éric Zemmour, quand il demande un rendez-vous, j'en raconte quelques-uns, notamment un grand dîner qui s'est tenu dans l'Ouest parisien en présence de l'ex-PDG d'AXA, Henri de Castres, de Stanislas de Benzmann et son frère qui font partie des 500 premières fortunes françaises, du numéro 3 de Safran, entreprise cotée au CAC 40, de quelques grandes personnalités comme ça. Il y avait aussi Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6. Ils sont curieux, ils veulent découvrir
le phénomène.
Zemmour. Ils sont un peu hypnotisés par la culture d'Éric Zemmour, mais vous avez raison, à la fin, ça ne prend pas. C'est-à-dire qu'il
On ne sait pas encore aujourd'hui.
Ça ne donne pas.
Ça, on ne sait pas encore. Il y en a qui peuvent donner.
Non,
mais
attendez,
il y en a qui peuvent donner, là, maintenant.
D'ailleurs, je vais vous dire, il y en a qui donnent. Il y en a qui donnent. J'ai eu vent d'un don d'une des 100 premières fortunes françaises à Éric Zemmour. Il y en a qui donnent. Il y a des gens un peu moins riches, mais très riches quand même.
Les auditeurs se posent la question, il y a des limites.
C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que